La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cozandet, je suis pasteur à l'église Gospel Célébration qui se réunit chaque samedi à Colomiers. Nous faisons partie du réseau des églises adventistes du 7e jour, membres de la Fédération protestante de France. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur les étapes de la vie chrétienne, telles que Paul les présente dans sa lettre aux Éphésiens. Alors pourquoi des étapes? Est-ce que la conversion n'est pas le plus important, cet événement qui nous fait dire qu'il y a un avant et un après? Nous étions sans Dieu et celui-ci est venu nous rejoindre dans notre réalité, nous ouvrir les yeux sur son amour et son existence. Et un jour, nous l'avons reconnu, accepté et reçu. Pour certains, la conversion correspond à un événement précis qu'ils peuvent dater. Pour d'autres, c'est un cheminement progressif. Mais qu'est-ce qu'il se passe après? Ça me fait un peu penser à la manière dont beaucoup d'histoires décrivent une relation amoureuse. Dans la plupart des contes, l'histoire déroule ce qui arrive à des personnages, les différentes étapes auxquelles ils sont confrontés et comment ils vont tout surmonter pour être enfin ensemble. Mais l'histoire s'arrête toujours là. Ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Comme s'il n'y avait rien à raconter de ce qui se passe après. Pourtant, nous savons d'expérience qu'il n'en est rien. Il y a bien sûr d'autres étapes qui attendent les mariés et qu'il serait intéressant d'entendre raconter aussi. De la même manière, la vie chrétienne ne se résume pas à une épiphanie, une révélation de Dieu, à une rencontre plus ou moins marquée dans le temps. Lorsque Christ appelle ses disciples à le suivre, c'est pour démarrer un voyage, un cheminement avec lui. L'histoire ne s'arrête pas au premier contact, à la rencontre. Que pouvons-nous donc apprendre des étapes de ce voyage ? Pour répondre à cette question, j'ai été beaucoup inspiré par l'enseignement d'un homme du siècle dernier qui a vécu et témoigné de ce cheminement avec Dieu. Il s'appelle Watchman Nee. C'est un Chinois né en 1903 qui a vécu sa rencontre avec le Seigneur à l'âge de 18 ans. Et il était tellement passionné par sa rencontre avec Christ qu'il a passé sa vie à témoigner auprès de ses compatriotes avec des prédications et des livres qu'il a écrits. Mais on peut imaginer dans la Chine communiste de l'époque, ce que ça pouvait signifier. Et il a été arrêté à cause de sa foi en 1952. Et 4 ans plus tard, il a été accusé, jugé, condamné à 15 ans de prison. Seule sa femme avait le droit de le voir. Il est mort en prison en 1972. Et pourtant, jusqu'au bout, il a tenu bon. Son courrier était censuré, donc il n'avait pas le droit de parler de Dieu, mais dans une de ses dernières lettres, il a écrit « Malgré la maladie, je garde la joie au cœur ». Comment cet homme a-t-il pu tenir malgré tout? Qu'est-ce qui était si fort dans son cheminement avec Dieu pour que ça envahisse la peine? Parmi les cahiers qu'il a laissés avant d'être arrêté, il a écrit des réflexions sur l'Épître aux Éphésiens. Et je m'en suis inspiré parce qu'elles peuvent nous donner quelques clés sur les étapes de la vie chrétienne. Lorsque l'apôtre Paul écrit la lettre aux Éphésiens, il est en prison, à Rome. Alors qu'il était à Jérusalem, il a été accusé et arrêté. Au terme d'un long et périlleux voyage raconté dans le livre des Actes, Paul est arrivé à Rome et il attend l'issue de son procès dans sa prison. C'est donc dans cette prison qu'il va écrire aux chrétiens de la ville d'Éphèse et de la région. Alors Éphèse, c'est une communauté qu'il connaît bien puisqu'il y a passé 3 ans à évangéliser, à enseigner. Et puis, quand il est parti, il a laissé l'église à la charge d'anciens qui s'en sont occupés. C'est donc un homme en prison qui écrit cette lettre, un homme qui risque d'être condamné à mort et exécuté. Et pourtant, les mots de sa lettre ne sont pas ceux d'un homme angoissé ou inquiet. L'épître est une description émerveillée du plan de Dieu pour sauver les humains. Après les salutations d'usage, Paul commence tout de suite au chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et ce « en lui » va revenir plusieurs fois, par exemple au verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. » Puis au verset 11. « En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté. » Et encore au verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi. » Voilà, encore et encore, Paul s'émerveille de tout ce que Dieu a mis à notre disposition en Christ. Et Paul partage son enthousiasme avec les Éphésiens. Au verset 15, il leur écrit « Voilà pourquoi, maintenant que j'ai reçu des nouvelles de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. » Voilà, Paul priait pour les Éphésiens, parce que les Éphésiens étaient chers à son cœur. Et Paul est tout heureux et reconnaissant d'avoir appris qu'après tout ce temps, les Éphésiens ont encore la foi qu'il leur a enseignée. Et pour les encourager, Paul va revisiter le parcours de la foi. Il va le faire en décrivant trois étapes, à travers trois verbes. Être assis, marcher et tenir ferme. Alors commençons avec cette première étape, être assis. Dans la première partie de la lettre, c'est ce verbe qui revient. Au verset 17 à 20, toujours du premier chapitre, Paul écrit « Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité et de toute puissance. » Christ a vécu la descente sur terre. Il est descendu jusque dans nos vies, jusque dans la mort, et il a eu la victoire. Dieu l'a donc ressuscité et l'a fait asseoir avec lui à sa droite, c'est-à-dire à la place d'honneur, c'est ça, la place à la droite d'eux. Et la suite du raisonnement de Paul, c'est que grâce à ce que Christ a fait, grâce au fait qu'il a acquis le droit de s'asseoir à la droite de Dieu, nous aussi, en Christ, nous pouvons être assis, caché en Christ, avec Dieu. Au chapitre 2, les versets 5 à 7, il écrit « Mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Voilà, Paul ne s'embarrasse pas de superlatif, hein, la richesse surabondante de sa grâce, voilà, c'est dire à quel point c'est fort pour lui. Et dans ce processus, il utilise ce terme, hein, « il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Paul montre aux Éphésiens que Christ nous précède et que nous suivons le même chemin. Christ a ouvert un chemin et donc on peut y aller. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que je sache, les croyants ne sont pas assis sur un siège quelque part dans les nuages à côté de Dieu. Paul est en train de dire que paradoxalement, le cheminement avec Dieu ne commence pas par marcher, mais par être assis. Quelle est la différence entre les deux? Prenons un exemple. Quand nous sommes debout, ce sont nos jambes qui portent le poids de notre corps. Nos muscles tiennent nos os et on peut rester debout. On se porte soi-même. Si ça dure longtemps, on fatigue parce que cela demande un effort. Par contre, quand nous sommes assis, notre poids tout entier est posé sur la chaise. C'est une position de repos. Ce ne sont plus nos muscles qui nous portent, mais quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes. De la même manière, dans le domaine spirituel, être assis, ça veut dire qu'on laisse reposer tout notre poids, notre fardeau, nous-mêmes, notre avenir, tout, on laisse reposer tout cela sur le Seigneur. Et c'est ce que Paul dit ensuite au verset 8. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est-à-dire de vos propres efforts, c'est le cadeau de Dieu. Être assis, c'est accepter qu'on est sauvé en nous reposant sur le Seigneur Jésus, en nous confiant en lui, en faisant confiance que ce qu'il a accompli, c'est ce qu'il fallait et que ça suffit. On peut être tenté de commencer par vouloir marcher. On peut dire, en fait, si on ne marche pas, comment atteindre notre but? On ne peut pas arriver nulle part si on ne fait pas d'efforts. Mais le christianisme est étrange. Si tout au début on essaie de faire quelque chose, on ne va pas y arriver. Si on cherche à atteindre quelque chose, on manque tout. Car le christianisme ne commence pas par un « faire », mais par un grand « tout est fait ». Tout est fait. Au tout début de la lettre aux Éphésiens, Paul affirme que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a comblés. Le temps est au passé. C'est déjà fait. C'est déjà acquis. Dieu a déjà tout accompli. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus en mourant sur la croix. Tout est accompli. Voilà, c'est fait. Et donc, je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose à quelque chose que Dieu a déjà fait. Et donc, dans la première étape du cheminement avec Dieu, nous sommes invités à nous voir assis avec Christ et à jouir de ce que Dieu a fait pour nous et pas à chercher à l'atteindre par nos propres forces. Nous commençons la vie chrétienne non pas en accomplissant quelque chose, mais en découvrant ce que Dieu a déjà accompli pour nous. C'est d'ailleurs ça la signification du sabbat. Dans le récit de la Genèse que nous trouvons dans le premier chapitre de la Bible, il est écrit que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Ce faisant, Dieu a inventé la semaine. Et dans ce récit, quand est donc arrivé l'être humain? La Genèse raconte que l'homme a été créé le 6e jour, après la lumière, les astres, la mer, la terre et les animaux. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire au rabbin du Midrash que l'homme ferait bien de ne pas se gonfler d'orgueil, vu que même le moucheron et le moustique ont été créés avant lui. Bref, je digresse. Adam est donc né au soir du 6e jour. Et comme le récit de la création compte le début de la journée au coucher du soleil, cela veut dire qu'à peine les yeux ouverts, Adam est entré dans le 7e jour, le Shabbat, le jour du repos de Dieu. Il n'a rien fait pour exister, il n'a pas travaillé toute la semaine pour mériter de se reposer. Non, c'est Dieu qui a travaillé pour lui et qui lui offre un jour de congé comme premier jour de vie. Symboliquement, cela veut dire que l'homme commence sa vie en se reposant sur ce que Dieu a fait. Le sabbat biblique nous rappelle que tout est don de Dieu, que notre marche chrétienne commence par un Dieu qui donne et notre cœur qui reçoit. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul appelle donc cette étape « être assis ». C'est la première étape, mais que se passe-t-il après ? La lettre aux Éphésiens contient un autre thème qui correspond à la deuxième étape du cheminement avec Dieu. Comme souvent dans les lettres de Paul, la première partie est théologique, elle redit l'Évangile, ce que Dieu a fait. Et la deuxième partie est pratique, c'est-à-dire que Paul montre comment le fait de recevoir l'Évangile nous transforme et a des conséquences sur notre manière de vivre et de nous comporter. C'est ce qu'il appelle l'étape de la marche. Après s'être assis, nous sommes appelés à marcher. Et pour Paul, c'est même vu comme une conséquence, parce que nous nous sommes assis, alors nous pouvons commencer à marcher. Il y a 8 fois le mot « marcher » dans la lettre aux Éphésiens. En voilà 2 exemples, chapitre 5, verset 2. « Marcher dans l'amour », c'est un impératif, « marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même à Dieu pour nous. » Au chapitre 5, verset 8 à 10, « Autrefois, en effet, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc il est en train de dire, maintenant que vous êtes des enfants de lumière, marchez comme ce que vous êtes. Avant, on était dans les hautes sphères, assis avec Christ dans les lieux célestes, mais si on en restait là, ça ne nous aiderait pas beaucoup. Oui, il y a des choses symboliques qui se passent au ciel, mais nous, on vit sur terre, avec une vie bien concrète, on doit survivre avec des situations bien réelles, pas toujours faciles à gérer. En quoi ça fait une différence? C'est là que la lettre de Paul devient très terre-à-terre, très réelle, très pratique. Et ça concerne notre relation avec les autres. Au chapitre 4, verset 1, par exemple, « Marchez avec patience, vous supportant les uns les autres. » Verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Verset 28, ne dérobez plus. Verset 31, que toute rancune soit bannie d'entre vous. Soyez bons, pardonnez-vous réciproquement. Soumettez-vous les uns aux autres. N'irritez pas, etc., etc. Devant une telle liste, on peut se sentir découragé. Quoi ? Faire toujours le bien, pardonner, se réconcilier ? Mais c'est trop dur, comment est-ce qu'on peut faire ? Oui, c'est bon de se savoir sauvé par Christ, mais comment est-ce que cela peut aussi me changer ? Dieu nous a assis en Christ, mais maintenant comment marcher comme Christ ? Paul nous donne un élément qui fait le pivot dans la lettre, qui permet le passage entre les deux, entre le assis et le marcher. Dans Éphésiens, on le trouve au chapitre 3 à partir du verset 14. Je lis jusqu'au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tout ce texte nous dit une chose. Maintenant, Christ habite en nous et il est une puissance qui agit en nous. Notre problème, c'est qu'au début, on est assis et après, quand on marche, on pense qu'on doit le faire par nos propres forces. Et donc, on trouve ici ce paradoxe. Dans la vie chrétienne, pour marcher, il faut rester assis. Le secret du chrétien, c'est son repos en Christ. Au lieu de me dire « il faut que j'essaye plus fort », je vais me dire « Christ est en moi, c'est lui qui le fait ». Donc, au lieu de demander l'amour, au lieu de demander la force, au lieu de demander l'humilité, je vais plutôt remercier et louer le Seigneur parce que tout ça, je l'ai déjà par Christ qui vit en moi. Tout est déjà là. Par exemple, face à un conflit, je peux prier comme ceci. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à cette personne, alors merci parce que le pardon est déjà là en moi à travers toi. Comme vous voyez, ça change le contenu de nos prières. De la supplication et la demande, nos prières se transforment en louange, en remerciement, en exclamation de joie. Oui, je n'ai plus à porter mon fardeau. Christ le porte en moi et c'est lui qui me transforme jour après jour. La deuxième étape consiste donc à marcher, c'est-à-dire à me comporter comme Christ, mais en restant intérieurement assis avec Christ, c'est-à-dire en me reposant exclusivement sur Christ et non sur mes propres forces. Le secret de la marche chrétienne, c'est le repos en Christ. Mais Paul ne s'arrête pas là. Ça, c'était la deuxième étape. Après être assis, après marcher, Paul enclenche une troisième étape dans notre cheminement de chrétien. Dans le dernier chapitre des Éphésiens, Paul nous dit qu'on est pris dans un combat et qu'on ne doit pas se tromper de bataille. Je lis au verset 6, les versets 10 à 15. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Dans cette dernière partie de sa lettre, Paul sait que les Éphésiens doivent faire face à des oppositions, à des épreuves, à des difficultés. Alors, il veut les aider à bien se positionner. Et bien se positionner, ça veut dire bien choisir sa bataille. Je me rappelle, un jour, j'étais en train de discuter avec une mère de 3 enfants. Pendant qu'on parlait, sa fille est venue lui demander si elle pouvait aller chercher un biscuit dans le placard. La mère me parlait, donc au début, elle n'a pas écouté ce que disait sa fille. Mais l'enfant revenait à la charge. Encore et encore, elle insistait. Au bout d'un moment, la mère a arrêté de me parler. Elle a regardé sa fille. Elle a poussé un soupir et elle a dit « Bon, d'accord, vas-y. » Et ensuite, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Tu apprendras quand tu seras parent. Il faut choisir ses batailles, sinon c'est toujours la guerre. C'est exactement ce que dit Paul aux Éphésiens. Si on choisit mal ses batailles, on peut perdre la guerre. Et donc dans ce texte, Paul pointe plusieurs fausses batailles qu'il faut éviter. La première mauvaise bataille ou fausse bataille, c'est de considérer que les ennemis ce sont des gens, ce sont les autres. À ceci, Paul répond non, le combat n'est pas contre des personnes ou des situations. C'est un combat spirituel contre l'ennemi de Dieu. La deuxième fausse bataille, c'est de penser qu'on doit gagner du terrain. Si je reprends ces versets 10 à 15 du chapitre 6, je note qu'il y a une expression qui revient sous différentes formes. Il dit « Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter, etc. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Oui, tenez bon. » On note donc ce vocabulaire qui revient, tenir bon, résister, tenez votre position, etc. On pourrait aussi dire ne pas lâcher pied, faire qu'une personne, une chose, garde sa place. Et c'est là que Paul nous décrit sa fameuse armure du chrétien. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces armes sont défensives, sauf peut-être l'épée, mais qui en fait peut être aussi utilisée de manière défensive. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout ce langage guerrier est un langage de positionnement et pas d'attaque. Paul ne nous dit pas de conquérir du terrain. Il nous dit de tenir ferme sur le terrain que Christ a déjà conquis. Par sa vie, par sa mort et sa résurrection, Jésus a déjà remporté la bataille. Aujourd'hui, il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a remporté la victoire. Et donc c'est pour ça que Paul nous invite à tenir ferme. Nous n'avons pas à lutter pour un terrain qui nous appartient déjà. Aujourd'hui, nous ne luttons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous ne luttons pas pour gagner, mais parce qu'en Christ nous avons déjà gagné. Les vainqueurs sont ceux qui se reposent sur la victoire qui leur a déjà été acquise par le Seigneur. Alors où se situe la bataille ? Le but de l'ennemi est de nous faire perdre notre position, et il va le faire par le mensonge en nous faisant regarder le plan de la bataille de manière erronée. Et donc, dans une situation difficile, nos réactions naturelles ce sera de se raidir, de serrer les dents, de prier Dieu, de nous donner la victoire. Mais alors, quelque part, l'ennemi aura déjà réussi quelque chose, parce que si je demande la victoire, ça veut dire qu'il a réussi à me convaincre que je ne l'avais pas. Donc, au lieu de demander, je vais louer le Seigneur pour la victoire qu'il a déjà acquise. C'est ça la troisième étape de la vie chrétienne. Jésus l'a formulée en nous invitant à veiller, à ne pas nous endormir, à prier. Être assis, marcher, tenir ferme. Voilà trois étapes de notre cheminement avec Dieu. Mais chaque étape dépend toujours de notre position en Christ. Voilà ce que Watchman Nee avait découvert dans la lettre aux Éphésiens. En juin 1972, une nièce de Watchman Nee a reçu la nouvelle que son oncle était mort en prison. Comme elle était la seule famille qui lui restait, elle s'est empressée d'aller à la prison, mais il avait déjà été incinéré, elle n'a pas pu récupérer ses cendres. Mais un officier conciliant lui a aussi donné un morceau de papier qu'il avait trouvé sous son oreiller. La nièce a précieusement emporté le bout de papier et elle y a découvert un petit message écrit avec une main tremblante. « Christ est le Fils de Dieu qui est mort pour la rédemption des pécheurs et qui est ressuscité après 3 jours. Ceci est la plus grande vérité de l'univers. Je meurs à cause de ma croyance en Christ. » Signé Watchman Nee. Watchman Nee s'est assis en Christ. Il a marché avec lui, il a tenu ferme, comme Paul avant lui, comme Christ. Comme eux, passons par ces 3 étapes de la vie chrétienne. Acceptons de nous asseoir dans le repos du salut que Dieu nous donne gratuitement en Christ. Laissons-nous transformer pour marcher comme Christ a marché, non pas avec nos propres forces, mais avec les siennes. Et enfin, tenons bon dans la victoire qui nous a déjà été acquise par Dieu. Alors aujourd'hui, ne perdons pas courage et gardons notre position de repos en Christ. Amen.
La fin de la journée, et je n'ai plus rien à te donner. J'ai trop essayé sans jamais réussir. où sont les victoires à venir. Je n'ai plus de force, je suis trop fatigué. Oh, brise mon écorce, touche mon cœur brisé. Ta main me guérissant, je peux tout te donner et recommencer maintenant. Par ta force, par ton amour, rien que par toi, je suis debout, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi. Ce n'est plus moi, mais c'est toi. Oubliant ta main, j'ai mis trop de confiance dans mes propres moyens, dans mon intelligence. J'ai pourtant cherché et beaucoup essayé, mais je n'ai pas trouvé mieux.